Le 2 mai 1988, Simone Veil, ancienne déportée d'Auschwitz, expliquait sur France Culture la difficulté de s'exprimer une fois rentrée en France.
Et si nous n'avons pas parlé, c'est parce qu'on n'a pas voulu nous entendre, on n'a pas voulu nous écouter. Parce que ce qui est insupportable, c'est de parler et de ne pas être entendu.
Après avoir survécu à la Shoah, Simone Veil a donc dû apprendre à se taire.
C'est insupportable. Et c'est arrivé tellement souvent à nous tous que quand nous commençons à évoquer, que nous disons quelque chose, il y a immédiatement l'interruption. Il y a la phrase qui vient couper, qui vient parler d'autre chose, parce que nous gênons. Profondément nous gênons.
Dès l'été 1945, les déportés ont vite compris que la société française voulait se projeter vers l'avenir et oublier les souffrances de la guerre.
Derrière la volée triomphale, il y a partout un glas pesant qui teinte. Écoutons bien, c'est l'heure des funérailles. De ceux qui n'en eurent point, assassinés dans les chambres de torture, ou qui, dans tous les Auschwitz et tous les Buchenwald, sont partis en fumée.
Après l'été 1945, les déportés rescapés vont tous devoir réapprendre à vivre au cœur d'une société qui n'a aucune idée de ce qu'ils ont enduré. Et dans cette après-guerre, si nos trois personnages connaissent des destins très divers, ils sont unis par la difficulté à se faire entendre. D'abord, après son retour à Brive, Edmond Michelet, le résistant gaulliste rescapé de Dachau, est écarté des discours officiels en août 1945.
Vive la République, vive la Résistance, vive la France!
De son côté, Gisèle Guillemot, la résistante communiste, revenue de Mauthausen, se sent perdue après son retour en Normandie, qu'elle quitte à nouveau pour Paris, espérant ainsi conjurer sa solitude. Enfin, Denise Kahn, jeune juive alsacienne, survivante d'Auschwitz, est recueillie par sa tante dans un petit village du Lot, où son expérience traumatisante s'avère bien vite impartageable.
Vous avez été déportée ?
On ne parle pas de ça.
Alors, comment retrouver une place dans la société ? Comment se reconstruire un avenir après l'expérience concentrationnaire ? Et comment les rescapés ont-ils vécu l'incompréhension, voire l'indifférence à leur égard ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
À vous qui m'écoutez, auditeurs fidèles de notre radio libérée, nous souhaitons que ceux d'entre vous qui ont été sinistrés retrouvent bientôt un toit et un foyer, et que bien vite se cicatrisent les blessures et que se relèvent les rues.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Les Déportés. Sixième épisode, la réinsertion.
Nous pénétrons maintenant dans l'enceinte du camp que nous allons visiter en essayant de vous en dépeindre aussi sobrement que possible l'austère et l'atroce tableau.
J'ai vu, alentour de ce camp d'Dachau, des rescapés au visage transparent se traîner vers le soleil et tomber sur la route.
L'immense cortège des ombres qui survivait encore se leva sur ses jambes flagellantes.
Le 15, vers 1h de l'après-midi, nous avons vu arriver la première voiture de radio qui nous annonçait en trois langues, français, russe et allemand, que le camp se trouvait désormais placé sous le contrôle britannique.
On n'avait même pas la force d'être heureux.
Mais tous ceux qui ont été libérés à Auschwitz ont une seule volonté, parler pour qu'il n'y ait plus jamais d'Auschwitz.
Le récit débute le mardi 8 mai 1945.
Yesterday morning at 2:41 a.m.
La veille, dans la ville de Reims, l'armée allemande a signé sa reddition. La Seconde Guerre mondiale s'achève en Europe. Unconditional surrender. The German war is therefore at an end. À 15h, le général de Gaulle s'exprime à la radio.
La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France.
Dans la foulée de ce discours de la victoire, Paris bascule dans une grande liesse populaire.
Ce n'est pas de l'enthousiasme, c'est absolument du délire qui prend aujourd'hui la foule de Paris. Le général de Gaulle vient de terminer son discours, les hymnes nationaux viennent de retentir à la TSF, et en bas du bâtiment de la radio du 118 Champs-Élysées, ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont groupées pour attendre les dernières nouvelles. Tout le monde entend la Marseillaise que vient de diffuser la radio.
Aujourd'hui encore, les mémoires françaises demeurent imprégnées de cette atmosphère saisie en direct par les radioreporters.
C'est un des plus beaux jours de ma vie aujourd'hui.
Vous avez un écusson de champagne, vous êtes champenois,
oui,
non?
Oui, c'est Pernet, oui.
Eh bien, c'est parfait. Alors, c'est le pays du champagne, c'est le jour de le savoir.
Le lendemain, c'est le premier jour du monde d'après. Il faut reconstruire, il faut restaurer l'esprit de la République et il faut vite penser à l'avenir. C'est le début de l'été, le retour de la paix. Avec quelle place accordée aux déportés?
La société française a accueilli de manière ambivalente les déportés.
Olivier Wiewiórka est historien.
Premier élément, il faudrait déjà faire une distinction entre déportés raciaux et déportés résistants. Mais globalement parlant, on peut dire que le retour des déportés a provoqué un choc. Et un choc très sincère de la part de la population qui a été extrêmement émue par la détresse des survivants, soit de ces bagnes, soit de ces centres de mise à mort.
Mais écoutez, nous ne sommes pas réunis pour un enterrement. C'est un beau jour, un jour de fête.
Ne parle pas trop vite.
Pourquoi?
Si tu la voyais.
On ne peut pas sortir d'un camp de la mort en bonne santé.
Dis-nous, comment est-elle?
Oh, c'est affreux. Elle n'a plus d'âge, plus de chair.
Mais elle peut marcher?
On l'a ramenée sur une civière. Mais en s'appuyant sur moi, elle a pu rester quelques instants debout.
C'est déjà ça.
Donc vous avez eu, j'ai envie de dire, de l'empathie, de la compassion. Très vite, en revanche, vous avez eu une certaine lassitude. Et notamment par rapport aux déportés juifs, où au fond, y compris les familles, ne voulaient pas nécessairement entendre les épreuves qu'ils avaient traversées. Donc vous le voyez, un intérêt dans un premier temps avec une forme d'empathie, et en même temps ensuite, une volonté, me semble-t-il, de tourner la page.
Les rescapés sont relégués au second plan. Ils tentent alors de réintégrer une vie normale, comme ils peuvent, non sans difficulté pour certains, comme l'évoquait en 1995 Maurice Kling, juif parisien et ancien déporté.
J'ai pris le métro, donc. Je suis sorti du métro en retrouvant à la fois, comme je le disais tout à l'heure, Paris, d'avant, mais mon regard n'était plus le même. Je me sentais en même temps étranger. J'étais à la fois chez moi et devenu étranger. Parce que j'avais tellement vu de choses et j'étais encore tellement porteur de... Serait-ce que mon regard n'avait plus la transparence, si vous voulez, d'être... J'étais plus chez moi, la même perception de la ville et des gens qui marchaient. Il y avait une gaieté générale. Du printemps, vous voyez, à Paris, sur les boulevards.
De son côté, Edmond Michelet, 45 ans, notre premier personnage, a regagné sa ville de Brive.
Nous sommes heureux que tu sois bien tiré de l'aventure.
Et, en apparence, la réinsertion semble assez simple pour lui.
Monsieur le maire, merci du bon accueil.
Alors son retour se passe bien dans la mesure où sortir de l'enfer de Dachau, retrouver sa maison, retrouver ses enfants, sans qu'il y ait eu de mort, c'est très très important. Donc on peut dire la vie quotidienne peut reprendre son cours.
L'historien Laurent Douzou.
En réalité, très vite, il va sentir qu'il y a une vraie difficulté. Elle n'est pas propre à Edmond Michelet, elle est propre à tous les déportés. Il va vouloir parler, mais cette parole est inaudible. Ça ne veut pas dire que les gens n'entendent pas. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas littéralement ce qui est dit. Et le 15 août 1945, pour le premier anniversaire de la libération de Brive, Michelet pense prendre la parole, ce qui serait la moindre des choses. Or, il y a des pressions qui s'exercent sur le maire pour dire « c'est pas une bonne idée ». Parce que Michelet développe une vision assez nostalgique et dit « au fond, on s'est battu pour des idéaux qui étaient nobles ». Et la situation en août 1945 ne correspond pas exactement à nos attentes. Plutôt que d'entendre ce discours de tonalité négative, ben, on préfère dispenser Michelet de discours. Et là, il se rend compte que ce n'est pas une parole facile à porter. ce qui va le blesser profondément. Parce qu'il estimait qu'il avait finalement une voix au chapitre. Et puis sa voix était légitime ce 15 août.
Donc, en août 1945, Edmond Michelet n'échappe pas à la relégation des déportés, au point qu'il est écarté des commémorations officielles. Mais son passé récent de grand résistant au sein du mouvement Combat le conduit dès l'automne vers des responsabilités de premier plan.
Michelet va jouer un rôle très important dans l'après-guerre. Il n'avait pas du tout pensé ça. Ça lui tombe vraiment dessus parce que, d'abord, Dachau l'avait éloigné de la vie politique. Donc, il ne comprenait pas vraiment le fonctionnement de cette vie politique de la France de 45-46, qui, de surcroît, est un fonctionnement éminemment complexe. Donc, il va falloir se réadapter. Ça va lui prendre du temps. Mais il va être à l'Assemblée nationale consultative.
Messieurs !
Puis à l'Assemblée constituante, sous les couleurs du mouvement républicain populaire.
Ça veut dire qu'il est élu député. Hein.
Ça veut dire qu'il est élu député, bien sûr, sans coup férir, vraiment haut la main.
À l'Assemblée, Pierre.
Et moins de 6 mois après avoir quitté Dachau, le 21 novembre 1945, il devient ministre des Armées. Ce qui est inattendu pour lui, il a le grade de sergent. Il n'est pas un grand spécialiste des affaires militaires. Il le dit au général de Gaulle, mais le général de Gaulle lui dit « Non, non, c'est un poste qui est fait pour vous, j'ai besoin de vous à ce poste. » Et Michelet, qui est devenu un gaulliste très, très fervent à ce moment-là, obéit en quelque sorte au désir, peut-être à l'injonction du général de Gaulle.
Monsieur.
Archive RTF, 22 novembre 1945.
Les nouveaux ministres du premier gouvernement de la 4e République se sont réunis pour la première fois aujourd'hui à 15h à l'hôtel Matignon. Vous entendez sans doute les cris des journalistes qui sont en demi-cercle devant le perron dans la cour Matignon et le général de Gaulle en civil apparaît le premier. Vous entendez les déclics des photographes.
Au pied du perron de l'hôtel Matignon, le journaliste s'avance vers le rescapé de Dachau.
C'est M. Michelet, le nouveau ministre aux armées, qui sort en compagnie de M. Pierre-Henri Tedjen et que je vais arrêter. Monsieur le ministre, je demande à tous les 4 ministres anciens déportés d'évoquer ce soir pour les auditeurs de la radiodiffusion française le souvenir le plus important de leur déportation.
Eh bien, le souvenir le plus important de ma déportation, c'est lorsque j'ai affirmé à mes camarades communistes de Dachau que je ne voudrais pas faire le travail sans eux, que par conséquent, je suis heureux d'en faire ici avec eux.
Eh bien, dans les circonstances où vous évoquez ce souvenir, monsieur le ministre, je trouve qu'il est très important. Je vous remercie beaucoup.
Au camp de Dachau, Edmond Michelet a pratiqué l'amalgame, c'est-à-dire l'union des déportés, quel que soit leur profil, avec un but commun, survivre. Un peu comme dans ce gouvernement de l'après-guerre, où se mêlent communistes, gaullistes et démocrates chrétiens, tous désireux de voir la France se relever. L'expérience concentrationnaire, au cours de laquelle il a su mobiliser autour de lui les volontés et les énergies, a profondément marqué l'esprit d'Edmond Michelet.
Dans la vie de Michelet, il y a vraiment un avant et après Dachau, comme dans la vie de tous les déportés en réalité. Sauf que lui, il est en pleine lumière, donc on a des éléments, on a une correspondance qu'on n'a pas pour tout un chacun. Mais enfin, d'une certaine manière, il représente l'immense cohorte des gens passés par Dachau et qui ont eu la chance d'en revenir, et par les autres camps d'ailleurs. Parce que Michelet a toujours eu l'élégance de dire « Finalement, Dachau, c'était très difficile, mais c'était moins difficile que Mauthausen. » Il a dit « Et moins difficile que beaucoup d'autres camps. » Vous voyez, donc il ne noircissait pas le tableau, il ne tenait pas le beau rôle, mais il y a quand même cette expérience-là.
Dachau tient avec Buchenwald la tête de ce palmarès de mort. Il y avait à Dachau des milliers de femmes, au milieu d'une foule qui atteignit à certains moments le chiffre de 60 000. Foule en perpétuel renouvellement, les morts remplacés sans arrêt par de nouveaux vivants.
Cette expérience, elle va nourrir une solidarité organisée, puisqu'il va créer l'Amicale des anciennes Dachau, dont il va être le président fondateur, 1945 jusqu'à sa mort, 1970. Et il ne faut pas voir ça comme une amicale d'anciens combattants, de vieux radoteurs qui ressassent leurs histoires. C'est vraiment un foyer de solidarité, intime. Il y a là une parole qui circule entre ces gens, à laquelle on n'a pas accès, nous. Quand je dis nous, les contemporains, et nous aujourd'hui, très différents, on ne peut pas même se figurer quelle était la teneur exacte des conversations qu'ils avaient, parce que c'était des gens qui avaient partagé cette expérience. Ils l'avaient intimement vécue. Et donc, il y avait une proximité entre eux. Quelle que soit leur position après-guerre politique, sociale, idéologique, il y avait ce ciment commun. Et ça, c'est évidemment très, très important.
D'où vient-elle ?
De Dachau.
Il paraît qu'à Ravensbrück, c'était encore pire. La sœur de mon chef de bureau...
On s'en fout.
Et qu'est-ce qu'elle t'a raconté ?
Rien. Je lui posais 1000 questions, elle ne répondait pas. Elle faisait seulement des signes avec la tête.
Est-ce qu'elle souffre ?
Comment savoir ? Elle ne dit rien.
Ce séjour à Dachau, Edmond Michelet attendra 10 ans avant d'en publier le récit. Le livre paraît en 1955.
À l'occasion du 10e anniversaire de l'ouverture des camps de concentration, au moment où se rend un hommage solennel aux anciens déportés, nous avons pensé qu'il était bon qu'un ouvrage de l'esprit fut joint à cet hommage, et nous avons demandé à M. Edmond Michelet, l'ancien ministre des Armées, de bien vouloir nous parler à ce micro ce soir du livre qu'il va publier dans quelques jours aux éditions du Seuil, ce livre qui s'appelle « Rue de la Liberté » et qui est la chronique des conversations tenues par les déportés français dans la Freiheitsstraße du camp de Dachau, la rue de la Liberté, où les déportés chaque jour se réunissaient pour échanger leurs idées, leurs projets et surtout leurs espoirs.
Au fond, si on réfléchit bien, quand on prend le fond de l'INA pour Michelet, il y a deux occurrences qui reviennent. La première, c'est quand paraît Rue de la Liberté en 1955.
Vous désirez, monsieur ?
Auriez-vous, mademoiselle, un nouveau livre intéressant ?
Certainement, monsieur.
Là, il est évidemment interviewé et il parle de Dachau. Et là, il acceptera de prendre la parole publiquement. Pourquoi ? Parce qu'il pense que dans les récits qu'on a fait de la déportation, on ne voit pas beaucoup les chrétiens. Et c'est son ami, le philosophe Étienne Born, qui lui avait dit « Tu sais quand même, ça serait bien que tu puisses témoigner et dire qu'il y avait des gens qui avaient cette foi dans les camps. » Pas la foi catholique nécessairement, il y avait des protestants, mais enfin, des gens qui avaient la foi, des chrétiens et puis d'autres, qui étaient dans les camps. Donc, il intervient, première occurrence, à ce propos, et la deuxième, à peu près constamment, lors de commémorations.
Discours d'Edmond Michelet à Compiègne, 1946.
Mes camarades, ceux d'entre nous qui sont passés par les prisons et les camps de l'ennemi se souviendront toujours des rêves qui, là-bas, étaient communs à nous tous. Revoir la France, revoir les nôtres, revoir en hommes libres et en vainqueurs les lieux de nos combats et de nos souffrances. La commémoration de Compiègne veut répondre à ces rêves tenaces, qui, pour de si nombreux camarades d'entre les meilleurs, ont été brisés par la mort. À nous autres, survivants que l'histoire a choisis selon des principes qui nous échappent, il appartient aujourd'hui de réaliser leurs rêves avec les nôtres. C'est dans ce sens que des Français patriotes et résistants, anciens internés ou déportés, s'associeront aux cérémonies qui vont avoir lieu sur l'emplacement du camp de concentration de Compiègne.
C'est pas qu'il ait envie de parler, c'est qu'on se dit qui pourrait en faire parler. Ben, on a une figure évidente qui est Edmond Michelet, et si on lui dit « Monsieur le ministre, il faudrait que vous veniez », que peut-il dire ? Il va se défiler en disant « Non, j'ai pas envie de parler, c'est pas possible ». Donc en réalité, les interventions qu'on a à l'INA, elles sont pas mezza voce, c'est pas Michelet confiant des confidences, c'est pas du tout ça. C'est Michelet remplissant un rôle, et c'est un rôle... Ça a été beaucoup dit, mais c'est vrai, qui a à voir aussi avec ses camarades morts en déportation. C'est-à-dire que des gens comme Michelet, au fond, tous ceux qui ont eu la chance de revenir, ont toujours dit qu'ils avaient contracté une dette vis-à-vis de ceux qui étaient restés. Et si vous lisez Rue de la Liberté attentivement, il n'y a pas une page où il n'y ait pas un nom propre. C'est-à-dire qu'il s'échine à donner le nom de tous les gens qu'il a croisés, en disant même à chaque fois qui ils étaient. Un tel était instituteur à tel endroit, un tel était... Lui était communiste, lui était... C'est-à-dire qu'on a un petit portrait de chacun d'entre eux. C'est pas du tout dû au hasard, c'est dû au fait qu'il s'agit de redonner vie à ces gens-là.
Edmond Michelet, dans
rue de la Liberté, 1955. Mes pauvres camarades, vous, dont j'ai essayé de faire revivre les visages, il me vient maintenant un scrupule. Celui de n'avoir pas su traduire tout ce que vous avez enduré avant de mourir. Pardonnez-moi cette inaptitude, ne me jugez que sur ma bonne intention. Nous pensons souvent à vous, vous savez, nous, les survivants. Nous ne vous oublions pas.
Le destin d'Edmond Michelet est peu commun pour un déporté. Rares sont les rescapés des camps à être devenus ministres. Cette position ministérielle permet à Edmond Michelet d'être entendu et de faire vivre la mémoire de ses compagnons morts en déportation.
Nos frères, nos compagnons sont morts pour la France. Ils n'ont pas choisi d'être des héros. Et c'est ainsi qu'ils le sont devenus.
Mais gardez en mémoire que la grande majorité des survivants rencontrent de réelles difficultés à se réinsérer. Archives RTF, 20 mars 1947.
Problème de l'après-guerre. À Fribourg, en zone d'occupation française, M. Mitran, ministre des anciens combattants, prisonniers et déportés, est venu dans le pays même qui vit leur souffrance ouvrir le congrès des déportés de la résistance et évoquer devant le général Koenig les difficultés que rencontrent ces hommes dans un monde qui ne correspond pas toujours à leur rêve des camps.
Si le ministre François Mitterrand participe à ce congrès des déportés à Fribourg, il n'en demeure pas moins que les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure des enjeux.
Les pouvoirs publics ne se sont pas nécessairement attelés à une grande réinsertion des déportés.
Olivier Vieillorca.
Tout simplement parce que vous avez, dans une large mesure, la volonté, et c'est la politique mémorielle que conduit le général de Gaulle, de ne pas établir une hiérarchie des mérites. S'il y avait eu une hiérarchie des mérites, les déportés résistants auraient été au fait de la pyramide. S'il y avait eu une hiérarchie des souffrances, les déportés juifs, les rares survivants, auraient été au fait, bien évidemment, de cette hiérarchie. Et pour tout un ensemble de raisons, et au fond, l'idée de ne pas attiser une concurrence entre les victimes, l'idée de maintenir une forme de paix sociale, le fait de ramener une forme de paix civile, d'éviter la guerre civile, va amener le général de Gaulle à, au fond, considérer que tous les Français ont été résistants, que tous les Français ont été des victimes, et donc, au fond, à euphémiser la spécificité de chaque catégorie. Ce qui fait que les déportés, ce qui, nous, aujourd'hui, peut nous paraître étonnant, n'ont pas nécessairement été portés au pinacle de la société, ni comme héros, ni comme victimes.
Vive la République, vive la France. Et maintenant, bravo, tous ensemble, tous unis.
Il faut d'ailleurs souligner que ce que l'on peut comprendre des souffrances subies par les déportés, eh bien, n'est pas nécessairement perçu par la société ou ses représentants politiques. Lorsque vous avez un débat à l'Assemblée nationale, lorsque l'on discute du statut des déportés, vous avez un député qui affirme que dans les camps, on n'a pas plus souffert que dans les tranchées. Et donc, cette idée que le sort des victimes de la Seconde Guerre mondiale n'est pas nécessairement plus tragique que le sort enduré par les poilus est encore une idée très prégnante à une époque, il faut le souligner, où vous avez encore beaucoup de survivants de la Grande Guerre. Donc tous ces éléments expliquent que la spécificité de la déportation et a fortiori la spécificité de la destruction des Juifs d'Europe n'ait pas été perçue et que ce travail, au fond, est un travail relativement récent qui date, dirais-je, de la fin des années 80.
Parmi les déportés rescapés, dont l'expérience est alors bien mal comprise, on trouve Gisèle Guillemot. Notre deuxième personnage a 23 ans en 1945. Et en 2001, elle témoignait des difficultés à partager son vécu.
Pendant longtemps, personne n'a pu parler, non pas parce que on n'avait pas envie. Je crois aussi qu'on n'avait pas envie. Mais en dehors de ça, on ne nous écoutait pas bien. Et on n'avait pas l'impression que c'était une nécessité qu'on raconte. Chacun reprenait sa vie, ses études arrêtées, sa vie familiale entrecoupée. Enfin bon, chacun rentrait dans la vie.
Bonne année.
Bonne santé. Eh bien, moi, je sais ce que je veux pour 1946. Un bébé.
Oh. Il faut bien agrandir la classe ouvrière, hein.
À son retour de Mauthausen, Gisèle Guillemot est passée par l'hôtel Lutetia avant de rejoindre sa mère en Normandie. Mais très vite, l'ancienne résistante communiste quitte le foyer familial pour tenter de se bâtir un avenir.
Elle revient à Paris, elle continue son métier de sténodactylo.
L'historien Fabien Archambault.
Elle se marie, elle a deux filles.
Ça,
à quel étage?
Au 8e.
Et elle continue à militer au Parti communiste, dans les associations d'anciens résistants, d'anciens déportés communistes.
Bonjour.
Enchanté, camarade.
Alors, elle raconte ce qui se passe à Ravensbrück, par exemple. Et en gros, c'est sa mère et les interlocuteurs en général disent « mais t'exagères, c'est pas possible ». Et donc, c'est ce qu'elle dit, hein, c'est pas que les déportés n'ont pas voulu parler, c'est qu'on n'a pas voulu les écouter, on ne voulait pas entendre l'horreur de ce que ça avait été.
Tu te fais du mal.
J'ai besoin de parler.
Regarde dans quel état ça te met. Tu vas être maman pour la deuxième fois. Quelle plus belle preuve de vie cherches-tu?
Aucune. Mais de ne pas pouvoir être entendue, c'est comme d'y être encore, tu comprends? Seule, enfermée dans le bloc.
Gisèle Guillemot se heurte au refus de ses proches d'entendre un récit qu'ils ne peuvent concevoir. Et comme une large majorité de rescapés, elle trouve refuge au sein des amicales d'anciens déportés.
Dans les amicales, on se ressourçait, on se retrouvait. Parce que moi, je me souviens avoir eu un retour un peu difficile. D'abord, des problèmes avec ma mère, qui ne me pardonnait pas les souffrances que je lui avais infligées, qui trouvait ça inhumain, qui trouvait inutile aussi cette résistance. Elle disait, de toute façon, si vous pensez que vous avez libéré la France tout seul, vous trompez. Même si vous n'aviez pas été résistant, les Américains seraient venus, vous auriez pu rester à la maison. Elle me disait des choses comme ça, ce qui n'arrangeait pas nos relations, bien évidemment. Donc, des problèmes avec ma mère, des problèmes de réinsertion, la séparation d'avec les amis, c'était... Quelque part, c'était une déchirure. Quand on pense qu'on a vécu pendant, je ne sais pas moi, 8 mois dans la même cellule avec quelqu'un et qu'on s'est retrouvé au camp, qu'on s'est appuyé l'une sur l'autre pour survivre, et puis qu'une est expédiée en Normandie et l'autre se trouve à Toulouse. Dans ce temps-là, il n'y avait pas tellement le téléphone. Je pense que c'était aujourd'hui, on n'arrêterait pas de s'appeler au téléphone, mais bon, c'est dur, c'est très dur. On est perdu. Et donc, moi, en 51, ça faisait donc un certain temps que j'étais libérée, j'ai pris l'habitude d'aller à l'amicale de Mauthausen d'une façon régulière, par nécessité. On se retrouvait le samedi, et c'était comme une cure. On ne pleurait jamais, on n'était pas triste, on se payait des bons gueuletons, on riait beaucoup, on se racontait les histoires les plus affreuses du camp. Alors parfois il y avait nos maris ou les épouses de nos camarades qui étaient avec nous et qui ne pouvaient pas supporter, donc elles ne venaient plus, on se retrouvait entre nous.
Je vais vous raconter une blague, bougez pas, attention, hein. Elle est très courte, très courte. C'est deux juifs qui se retrouvent après la guerre, l'un qui voit l'autre et qui lui demande: tu me reconnais pas? Isaac, Auschwitz. Et l'autre: ah, Auschwitz.
Et c'était un lieu où on se ressourçait. Ça nous permettait de survivre. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les amicales ont si bien fonctionné. Naturellement, elles avaient aussi comme but essentiel de défendre nos droits, hein, de défendre nos droits aux soins, nos droits à une reconnaissance matérielle pour ceux qui étaient vraiment trop malades, qui ne pouvaient pas travailler. Enfin, bien sûr qu'elles avaient un côté pratique, mais je pense que si les amicales et les associations sont devenues si puissantes, c'est parce qu'elles nous ont permis de survivre.
Ces amicales d'anciens déportés ont donc permis aux rescapés de renouer avec une vie sociale. Une étape indispensable pour réintégrer doucement la société et retrouver un équilibre.
Écoutez, on va décider une chose une bonne fois pour toutes. On ne va pas parler de la déportation. On va s'amuser. On va aller à la mer, on va manger du poisson.
Mais pour Gisèle Guillemot, il arrive dans ces années d'après-guerre que le traumatisme de la déportation se réveille au hasard d'un événement anodin.
Bah, elle passe l'été en Espagne, sur la Costa del Sol. Elle fait une sieste l'après-midi sur la plage et il y a des groupes d'Allemands, enfin, qui aiment beaucoup hein, les plages espagnoles.
Des touristes. Hein.
Des touristes, donc voilà, qui s'invectivent en allemand. Et donc là, elle se réveille en sursaut, en croyant être à Mauthausen.
Panique.
En panique, oui. C'est-à-dire la langue allemande. Voilà, a réveillé ces souvenirs-là. Donc elle dit que voilà, on sort jamais des camps de concentration. Il y a cette formule hein, que ça nous colle à la peau jusqu'au bout. Elle fera des cauchemars.
Poème de Gisèle Guillemot en hommage à Anne-Marie Vion, morte à Ravensbrück le 3 février 1945. Mon amie, elle disait, si je reviens, j'écrirai des romans. Elle disait, si je reviens, j'apprendrai le violon. Elle disait, si je reviens, j'aurai beaucoup d'enfants. Il n'y aura ni enfants, ni violon, ni roman.
Gisèle Guillemot et Edmond Michelet ont été déportés l'un et l'autre pour des actes de résistance. Mais alors qu'en est-il de la vie après-guerre pour celles et ceux qui ont survécu à la déportation dite raciale ?
Ma cocotte !
Autrement dit, comment les survivants juifs de la Shoah ont-ils retrouvé une place dans la société ?
Tu viens manger à la maison quand tu veux, d'accord ?
D'abord, il faut savoir qu'un hommage officiel est rendu aux morts du camp d'Auschwitz dès 1946. Mais vous allez l'entendre, dans cette archive des actualités françaises, jamais le mot « juif » n'est prononcé. Et tout de suite apparaît un amalgame trompeur.
À Paris, une grande urne est apportée de l'ambassade de Pologne à la mairie du 11e arrondissement. Elle renferme des cendres du camp d'Auschwitz. En une douloureuse cérémonie, au milieu des sanglots d'une foule en grand deuil, sous les monceaux de fleurs, les drapeaux, les bannières aux inscriptions naïves et pleines d'une poignante espérance, un cortège a transféré les cendres jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. Ce sera leur dernière demeure de cette poignée de cendres ramassées sur la terre des morts qui symbolise ces 180 000 hommes, femmes et petits-enfants déportés de France pour le camp d'extermination et de massacre.
Rappelons que 76 000 juifs de France ont été déportés et que moins de 4 000 d'entre eux sont revenus vivants. Mais dans cette archive, on ne fait aucune distinction entre les différents types de déportés. Et surtout, on ne souligne jamais la spécificité de l'extermination des juifs. Alors, première question, est-ce que les juifs de France ont très vite commémoré le génocide ?
Dans sa thèse, Simon Perregaux montre que, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le génocide est parfaitement présent à l'esprit des juifs parisiens. Son étude, ce sont les juifs parisiens.
Claire Andrieux, historienne.
Paris est une place un peu particulière. La moitié environ des juifs parisiens sont étrangers. Et chaque groupe de juifs essaye de commémorer à sa façon. Le consistoire qui représente le milieu conservateur juif aurait tendance à remercier Dieu d'avoir épargné une partie de sa population élue.
גדול ויש קדוש ורבו ועולמוד ורויסי וימליך מלכוסי ויצמח פרקוני ויקור ופושיחי.
À l'extrême inverse, les juifs communistes réunis dans l'Union des sociétés juives de France voudraient dénoncer les crimes du nazisme et notamment le génocide.
Ça fait longtemps que je crois plus au miracle.
Moi j'y crois toujours, sinon on serait pas là. Il y a forcément un sens à tout ça.
Un sens.
Et cet ensemble de milieux juifs, si vous voulez, se réunissent, mais avec difficulté, se réunissent dans le conflit, c'est l'union dans le combat, si je puis dire, pour commémorer le génocide, qui n'est pas appelé comme ça. On commémore les crimes du nazisme.
Avec, vous l'avez dit, des tensions, parce que ce n'est pas unanime. Dans les communautés juives, il y a des grandes tensions, y compris politiques, à l'égard de cette commémoration de la mémoire de la Shoah.
Oui, par exemple, le rapport à la nation française n'est pas exactement le même dans chaque milieu. Et certains du côté du consistoire ou des Français israélites pouvaient penser qu'il n'était pas intelligent de raviver le souvenir de l'ostracisation radicale de la population juive, que ça risquait de réveiller l'antisémitisme. Et c'est un débat permanent, c'est-à-dire quelle conduite rationnelle adopter face à un irrationalisme meurtrier.
Oui, il est question peut-être en effet d'être discret pour réintégrer la communauté.
C'est ça. Faut-il être discret ou l'inverse? Et là, il y avait évidemment les positions des originaires d'Europe centrale et orientale étaient au contraire celles de marquer leur identité. On ne parlait pas d'identité à l'époque, mais ça voulait dire cela.
C'est encore l'antisémite du tout.
Oui, monsieur Chaussin, c'était plus calme avant. C'était alors, n'est-ce pas? Les juifs, maintenant, on les entend. Et même on les voit. Ils se promènent en famille sur les grands boulevards. Et ils feront une fête pour la circoncision du fils. Et même la naissance d'une fille. Ils la fêtent avec des gâteaux et une bouteille de Slemovitz. C'est pour bientôt. On vous invitera.
Gare de l'Est, 40 minutes. Avant le départ des déportés et des familles de déportés pour Auschwitz où se tient le pèlerinage annuel.
Archives RTF, 1949.
Je voudrais demander tout de suite à Mademoiselle Alcan, qui est la secrétaire générale de l'Amicale des anciens déportés d'Auschwitz, de nous rappeler quel est le but de ce pèlerinage annuel.
Le but de ce pèlerinage est de nous permettre, à nous anciens déportés et surtout aux familles de nos camarades qui ne sont pas rentrés, d'aller voir les lieux où ont souffert et où ont disparu les leurs.
Monsieur, vous êtes, je crois, non le pas un ancien père. Déporté, mais le père d'un
le
ancien
père
déporté.
Le père d'un déporté, oui. Et 34 personnes de notre famille ont été déportées. Le plus malheureux, ça a été notre pauvre gosse qui a fait la guerre. Et comme remerciement, il a été déporté également et je voudrais que jamais cette chose ne se renouvelle pour tous les Français.
Je voulais vous demander autre chose, Mademoiselle Alcan. Que pensez-vous rapporter de là-bas? Est-ce que vous vous livrerez à certains travaux de recherche, par exemple?
Il doit y avoir un bloc français au musée d'Auschwitz. Et le bloc est déjà désigné. Et il faudra que nous en ayons le plan et que nous voyons dans le cadre du musée qui existe actuellement ce que nous pouvons faire pour que les déportés de France aient aussi leur place là-bas.
Je vous remercie, mademoiselle. Je vous remercie à tous. Et vous souhaite bon voyage et bon courage pour cette route vers le souvenir.
À nouveau, dans cette archive de 1949, on entend les familles partir en pèlerinage à Auschwitz, mais jamais le mot juif n'est prononcé. Donc, seconde question, qu'est-ce que les communautés juives de France choisissent de commémorer dans l'immédiate après-guerre?
Alors, là, on va parler du cadre mental général, qui est d'ailleurs commun à la commémoration de la résistance ou de la déportation de la résistance. On est dans une période où sont honorés par priorité les héros. François Azouvi, qui a étudié cette question du passage du héros à la victime, estime que 1914 est l'acmé de ce mouvement de célébration du héros et qu'il vaut encore pour la Deuxième Guerre mondiale. On célèbre le héros.
À tous ceux qui se sont levés pour repousser les armes à la main, les envahisseurs, afin de sauver l'honneur et la liberté de la France. À tous ceux qui sont morts en héros, gloire à vous. Nous ne vous oublierons jamais.
pas un mot pour les nôtres, hein, ceux qu'on a ramassés avec parents et enfants.
Nous, on pense à eux, t'en fais pas.
Ça leur fait une belle journée.
Dans ce cadre, il est difficile de célébrer la déportation des Juifs qui sont des victimes, on peut dire, absolues. Le génocide est une manière de victimiser absolument une population. Mais l'héroïsme est difficile à trouver dans cette histoire. Mais on la trouve et les Juifs de France célèbrent, commémorent la révolte du ghetto de Varsovie.
Le secteur Mila réclame des munitions. Schlamek, David, organisez ça!
Ils sont là! Ils arrivent!
Donc c'est une commémoration qui est orientée sur des événements extérieurs à la France. Parce que les leaders de la commémoration sont eux-mêmes originaires de cette région, tandis qu'on aurait pu penser qu'ils trouvent des héros dans les maquis juifs. Il y avait plusieurs maquis juifs au sud-ouest du Massif central, ou bien parmi les héros de la résistance, il y avait des juifs.
Ils reviennent !
Et donc cette célébration est orientée peu sur les victimes, mais sur une image combattante du génocide, avec la révolte du ghetto de Varsovie.
On décroche et on se retrouve au bunker de la Russie.
Quel a été l'impact de ces commémorations de la Shoah sur la population non-juive en France, Claire Andrieux ?
Dans cette première phase, comme le dit Simon Perrego, de la mémoire de la Shoah, l'impact est limité parce que ces cérémonies sont non pas réservées aux Juifs, mais finalement n'y assistent que des personnes de ce milieu. Sauf que sont toujours invitées les autorités civiles et religieuses, donc un protestant, un catholique et les autorités de la République.
Avec la présence des autorités de la République à ces commémorations de la révolte du ghetto de Varsovie, il existe dès l'après-guerre un lien entre les communautés juives et la nation dans son ensemble. C'est fondamental. Ajoutons que la difficulté de commémorer la déportation tient aussi à la dimension inimaginable de cette expérience.
Il y a une difficulté, et c'est vrai pour les deux déportations, c'est que ce qui s'est passé dans les camps est radicalement extraordinaire. Et il y a une difficulté à comprendre et ou à croire. Cela paraît invraisemblable. Et certains témoignages d'anciens déportés font penser qu'ils ont été considérés comme des affabulateurs. Ça a pu être un peu difficile.
Les blessures étaient trop fraîches, c'était très difficile. On parlait avec les larmes dans la voix, c'était pas facile.
Jacques Finkel, 1995.
Et ensuite, nous-mêmes, on se demandait, est-ce qu'on ne déforme pas la réalité ?
Mon oncle était venu m'attendre au train avec mon petit frère. Il m'avait dit, à la descente du train, qui revenait de Birkenau lui-même, le frère de ma mère... Ne leur dis rien, ils ne comprennent rien. Non, moi, j'avais même pas compris ce que ça voulait dire.
Marceline Loridan-Ivens, France Culture, 2012.
Mais je m'en suis vite rendu compte, très rapidement, ça a été des silences où, quand j'étais à table, tout le monde était un peu gêné. Je pouvais pas supporter qu'on laisse un morceau de pain. Je me levais la nuit pour manger en cachette. Oui, j'étais déboussolée, puis j'avais des cauchemars qui me faisaient hurler la nuit. Et puis je dormais par terre. Ma mère ne comprenait pas pourquoi je dormais par terre.
Par ailleurs, si difficile que puisse être leur réinsertion, l'avenir des survivants de la Shoah est encore à construire.
Milou ?
Alors ?
Tu l'as ?
Je suis diplômée !
C'est extraordinaire !
Et maman serait fière de toi.
Ce sont des jeunes gens. Ils rentrent. Ils veulent vivre.
Annette Wiewiórka, historienne.
Et d'une façon globale, si la présence de ce qu'on appelle maintenant la Shoah avait été aussi prégnante quand ils sont rentrés, peut-être qu'ils n'auraient pas... fait des familles, procréé, fait des vies professionnelles, certaines avec beaucoup de succès dans leur domaine. Et en quelque sorte, la vie juive va reprendre comme elle était avant la guerre, avec aussi un éloignement très fort du judaïsme. Tout ce qui touche au culte est en très très grand recul, alors que les autres religions connaissent un regain après la guerre. Donc il n'y a pas de prise de conscience tout de suite du fait que la guerre est une rupture. Et je dis à dessein la guerre, parce que dans les familles, on disait la guerre. On n'avait pas de mots pour nommer ce sort particulier. Les mots sont venus plus tard avec Holocauste, Shoah, mais sinon on disait pendant la guerre.
Et c'est pendant la guerre que Denis Kahn, notre troisième personnage, a perdu sa mère. Souvenez-vous, Suzanne Kahn fut victime de la Shoah dès son arrivée à Auschwitz en mars 1944.
Maman ! Maman !
Et pourtant, après la guerre, la France classe cette victime sous un statut qui ne rend pas compte de sa spécificité. Preuve que le sort particulier des Juifs est encore un impensé.
Alors, c'est du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Mort pour la France.
Denis Kahn, 2006.
Madame, attendez, monsieur. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le décès de Madame Suzanne Kahn, née Reblaup, née le 19 janvier 1899 à Mulhouse, Mulhausen, demeurant à Schirhofen, étant survenue le 27 mars 1944 en Allemagne dans les conditions fixées par l'ordonnance du 2 novembre 1945. J'invite par ce même courrier le maire de Schirhofen à inscrire la mention « Mort pour la France » dans l'acte de décès. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Voilà.
En juin 1945, Denis Kahn, jeune juive rescapée de 17 ans, et son frère André sont réfugiés à l'hôtel Lutetia et ignorent encore ce qu'il va advenir d'eux.
Puis après, c'est ma famille qui est venue nous chercher, oncle Georges et tante Yvonne Dreyfus, qui habitent à Bérac, dans le Lot. C'est eux qui sont venus nous chercher et qui nous ont gardés, bien sûr, mon frère et moi. Et c'est comme ça qu'on est partis de Paris.
Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'une tante, une sœur de son père, vient chercher Denise et son frère à l'hôtel Lutetia.
Zoé Grimbert est historienne.
Et avec son mari, et elle a des enfants, elle reçoit le frère et la sœur. Denise dit avec beaucoup d'amour.
Enfin, surtout, je voudrais pas te fatiguer, mais je suis venu pour te dire que nous allons t'entourer de tellement de soins et de tendresse que tu reprendras vite le dessus. Dans la famille, on est solide, hein.
Il dit qu'ils ont vraiment été accueillis comme des membres de la famille à part entière. Ils ont noué des liens avec leurs cousins-cousines. Ils avaient une vie d'adolescent, en fait. Mais Denise n'est pas heureuse. En fait, elle n'est pas heureuse dans ce village. Elle y reste en fait jusqu'en juin 47 parce que en 47 elle va décider de partir. Il se trouve qu'elle a une tante aux Pays-Bas qui a un magasin avec son mari de vêtements et donc cette tante propose de l'accueillir et elle décide de partir donc au bout de 2 ans. Son frère en revanche pas du tout, il reste en France. Mais pour elle, outre l'ennui, il y avait aussi qu'elle ne trouvait pas de repères. Pourquoi ? Parce que dans ce village, elle dit que par rapport à la vie qu'elle avait connue à la fois en Alsace, mais aussi à Paris, il n'y avait pas de vie juive traditionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de synagogue, il ne semblait pas pratiqué. Et en fait, il faut bien se dire que dans sa vie quotidienne, avant la déportation, c'était des repères, c'était vraiment très présent. Et donc là, elle ne retrouve pas ça, et conjuguée à cet ennui, elle décide de partir en juin 47.
Alors, non seulement il y a en effet l'ennui à Vérac, il y a le fait qu'elle ait perdu un peu ses repères de tradition juive, en effet, il y a peut-être aussi un aspect intéressant, soit Grimbert, c'est qu'elle a du mal à raconter ce qui s'est passé, puisque sa parole de déportée ne trouve pas écho dans les habitants de Vérac.
Oui, c'est central, parce qu'en fait, elle sent un décalage, déjà entre son frère et elle, parce que son frère, lui, ne veut pas parler. Il ne veut pas parler, il ne veut plus parler de cette histoire. Il veut avancer. Mais elle, en fait, dès cette époque, elle est plutôt dans une démarche d'échange, de volonté de raconter ce qui s'est passé, d'échanger sur cette époque. Mais dans ce village-là, elle raconte qu'on ne parlait pas de la guerre. Et pourquoi on ne parlait pas de la guerre ? Parce qu'il y avait des Allemands en Dordogne, mais qu'aucun Allemand n'a vraiment été dans ce village-là. Et donc, le village n'a pas vécu la peur, l'occupation au quotidien, la crainte d'être fusillé. Donc, il y a un décalage qui se crée entre, d'une part, elle qui a vécu l'occupation à Paris, où les rafles étaient visibles, où il y avait cette peur qui était là malgré cette insouciance de la jeunesse, et un village qui n'a déjà pas vécu ça. Mais en plus, le décalage entre des gens qui n'ont pas été déportés et des personnes qui l'ont été est tel qu'elle ne partage pas son expérience à ce moment-là, et c'est difficile. Elle ne peut pas non plus échanger avec son frère, donc... En fait, on peut vouloir exprimer une parole... Et des travaux montrent que, notamment ceux de Simon Perregaux, que dès le retour des camps, des gens veulent parler, mais ça ne veut pas dire qu'on est entendu et que cette parole est accueillie. Et donc, c'est ce que vit exactement à ce moment-là, dans ce contexte-là, de la Dordogne rurale, Denise.
Est-ce qu'avec votre oncle Georges, vous parliez de ce que vous aviez vécu pendant la guerre ?
Niet.
André Kahn, frère de Denise, 2005.
Je vais vous dire pourquoi. Quand je suis arrivé à Vérac, j'ai été voir un médecin. Il voulait me faire enfermer.
Pourquoi il voulait vous faire enfermer ?
Parce que quand je lui ai raconté ce que j'avais fait, il m'a pris pour un fou. Il ne m'a pas cru.
C'est-à-dire que quand vous lui avez raconté ce que vous aviez vécu pendant la guerre... Il vous a pris pour un fou.
Oui, il voulait me faire enfermer. Et j'ai dit, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais parlé de ma déportation à personne. Personne.
En conclusion de ce sixième épisode, retenez d'abord qu'il fut quasiment impossible pour les déportés rescapés d'être entendus dans la société française de l'après-guerre. Le pays voulait oublier les années noires et se projeter vers l'avenir. Une situation cruelle et très difficile pour les survivants de la déportation.
Je t'entends.
Non, tu n'entends rien. Tu es sourd. Et pire, tu as honte. Et tu veux que toute la France soit sourde comme toi ?
Les rescapés se sont alors réunis ou regroupés dans des amicales d'anciens déportés pour échanger entre eux et se sentir moins seuls.
Les Haïm à la vie.
On n'imagine plus aujourd'hui le rôle social crucial qu'ont joué ces amicales.
Vous vous rendez compte que c'est la première fois qu'on fait un vrai repas ensemble.
Enfin, les choses vont tout doucement commencer à bouger au début des années 60, notamment grâce à un procès au retentissement mondial.
Adolf Eichmann est déclaré coupable de crimes contre le peuple juif, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et du crime d'avoir appartenu à des organisations criminelles. Selon la loi israélienne, tous ces crimes sont passibles de la peine capitale.
Comment, après le procès Eichmann, les déportés vont être sollicités pour témoigner ? C'est l'horizon du prochain épisode. Les déportés, un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Lecture, Bérangère Varluzel. Mixage, Basile Bocquer, Baptiste Collion. Prochain épisode, Les Témoins. Les Déportés est un podcast original de France Inter.